Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de Star Trek pour les nuls, le podcast. Putain, je c'est la première fois que je réussis mon intro, je suis trop fier.
On a été scotché là, on a rien dit, t'as vu? On voulait pas te déconcentrer cette fois-ci.
Quand tu vois l'échec de la semaine dernière. Enfin bon, nos cadets montent en grade et se lancent dans le triptyque Cannes. Bonjour chevalier Renaud. Ah
Khan ! Salut à tous.
Et bonjour Absol Charles.
Salut.
Et bonjour à notre commandeur Dragor.
Salut.
Et bonjour, roulement de tambour, à JP.
Bonjour.
Alors Byron ne sera pas avec nous cette fois-ci non plus, mais il reviendra bientôt, c'est promis. Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek, pour les nuls. Alors, avant toute chose, quoi de neuf? Quelles sont vos news un petit peu geek du moment?
Je pense que... Ben, la Coupe du Monde, non, désolé. Non, mais pour être plus sérieux, il y a le malheureux décès du légendaire Harlan Ellison. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui... les Trekkies vont connaître pour celui qui a écrit The Guardian of Forever, donc le fameux épisode où Kirk Spock retourne dans le passé. Donc, c'était un auteur, on pourrait catégoriser de légendaire. Il a commencé dans les années 40-50 avec les publications qu'on appelle en anglais des pulp publications. Il était connu pour son tempérament très colérique. Il a poursuivi de nombreuses productions pour... plagiat, il était très protectif de ses créations. Il a même forcé les gens de Terminator à rajouter son nom au crédit parce que le scénario ressemblait étrangement à une de ses nouvelles. Pour vous dire, il y avait un tempérament très, très particulier. Donc, c'est une grande perte pour le monde de la science-fiction.
Oui, je crois qu'on parle de ce mec dans un épisode de Dogma. C'est une série de vidéos sur Dailymotion par Karim Debbache. Mm-hmm. Il me semble qu'il l'aborde à un moment.
Ça ne m'étonnerait pas. Si vous désirez faire une expérience spéciale, il avait aidé à produire un jeu basé sur une de ses nouvelles. C'était « I want to scream ».
I want to scream free. And I want to scream free from the na-na-na-na. Non, c'est pas ça.
I want to be scream.
Donc, OK, je vais en reprendre. 1, 2, 3. Donc, le nom du jeu, I have no mouth and I must scream. J'ai malheureusement pas lu la nouvelle sur laquelle le jeu est basé, mais le jeu est quand même très, très dérangeant. On parle de 5 survivants d'une apocalypse causée par une intelligence artificielle l'intelligence artificielle les torture de façon inimaginable. Donc, c'est très, très spécial. C'est sur Steam. Je vous invite quand même à faire l'expérience. Okay. Une grande perte pour le monde de la science-fiction.
Ouais. Absol, des news geeks.
Moi, je vais être un peu plus joyeux. C'est les soldes! Voilà. Non, j'ai fait les soldes et je suis très content parce qu'au niveau geek, j'ai pu me faire bien plaisir. Donc, je me suis trouvé un petit Deus Ex sur PS4 à 5€. Un petit Final Fantasy 10-10-2 à 10€. Voilà. Et le Edge of Maiden. Je ne sais pas si vous connaissez celui-là. C'est par les créateurs de Saints Row.
D'accord.
Ils ont sorti ce jeu il y a 2-3 ans maintenant, je dirais. J'ai toujours voulu le faire. Et là, il était vendu à 3,09€. Voilà. Donc, je me suis fait mon petit plaisir jeu vidéo. Ma collection est prête. Et après, j'ai fait un gros craquage sur la Batmobile suprême de Lego. Voilà. Qui était vendu à moins 50% aussi. il déchire sa maman.
T'as acheté tout ça quelque part ou c'est en dématérialisé?
Alors, en majorité, c'était du Micromania pour les jeux PS4. Après, il y avait le Deus Ex, je l'ai trouvé, c'était à Carrefour. Le Lego Batman, du coup, c'est King Jouet qui pétait les prix, faisait moins 50 sur les boîtes. C'est parce qu'ils le reprennent. D'habitude, Lego, si t'as 10%, t'es content. Et après, mon dernier petit achat, c'est que j'ai ça faisait un moment que je voulais me le faire, c'est La Terre du Milieu, L'Ombre du Mordor. L'Ombre de la Guerre, pardon. Donc, le deuxième épisode, voilà. Et celui-là, donc, du coup, qui était à 20€, qui est voilà, raisonnable. Il est au même prix sur Steam, mais là, au moins, j'ai la boîte.
Il est sympa, hein.
Et bah, je suis dessus, et franchement, très très sympa. Et, très long à démarrer, par contre. C'est le seul que j'ai commencé là dans celui-là.
Mais j'ai pas joué au premier.
Le démarrage, en fait, quand t'as fait le premier, le fait de pouvoir comme ça convertir tes orques, tu peux le faire durant le premier. Et donc, que toute la première, le premier arc du 2, en fait, tu puisses pas le faire, bah t'as l'impression d'avoir régressé.
D'accord,
donc, mais sur. Ça. Du coup, ça te paraît un petit peu long, quoi. Voilà. Mais après, dès que ça se lance, par contre, c'est une tuerie.
Ouais. Je suis pas encore à ce niveau-là, du coup, ça doit faire 4-5 mois que je l'ai, mais c'est pour montrer à quel point je joue régulièrement. Du coup, je n'avance pas dans ce jeu qui me... Pourtant, alors autant je l'ai déjà dit 4 ou 5 fois dans ces émissions, je n'aime pas Le Seigneur des Anneaux, mais autant ce jeu, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. De toute façon, je l'ai vraiment pas eu très cher, moi, et je l'ai tenté et ça me plaît beaucoup, mais j'ai vraiment pas le temps de jouer, c'est horrible en ce moment. Renaud,
qui, de ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir pas mal d'heures de jeu, hein. J'ai pas fait de le finir.
Bon, on verra.
Ouais. Comme toi Rémi, il y a un jeu que je m'étais pris qui est Shadow of the Colossus, qui est super, mais que j'arrive pas à lancer. Sinon, moi, ça va plutôt être au niveau des séries en ce moment. J'ai essayé de me lancer dans la dernière saison de Walking Dead sans succès. C'est la première fois Walking Dead où je laisse tomber la série.
Mais c'est de la grosse daube.
Ouais, franchement, très, très déçu au bout du quatrième épisode. J'ai essayé de forcer un peu, mais j'ai laissé tomber. Sinon, ce que je peux recommander, bon, c'est une série qui a commencé il y a quelques années déjà, c'est Viking, qui est vraiment super. En comparatif, c'est une sorte de Game of Thrones, mais beaucoup plus... bon, forcément, ça reprend l'histoire des Vikings, mais beaucoup plus réaliste. Une réalisation aux petits oignons, des personnages vraiment sympas. Il y a une bande-son qui est vraiment stylée, donc je recommande. Et il y a la saison 2 aussi de Légion qui s'est terminée. Légion, donc ça reprend l'univers Marvel, notamment les X-Men. Tu sais, le personnage de... le fils de Charles Xavier, qui est... Tu me diras, Rémi, tu connais pas mal l'univers, mais il a des pouvoirs psychiques aussi. Pas mal. Et c'est franchement, il y a de la réal, ça joue sur l'idée du mental, enfin ça essaie de nous perdre, de nous tourner dans des labyrinthes. Les acteurs, franchement, sont super bons au niveau des images, de la couleur. Enfin, franchement, Légion, je recommande aussi. Et voilà. Et après, sinon, pour terminer, je viens de terminer un bouquin de Pierre Boulle, donc l'écrivain de La Planète des Singes. Alors voyons, le livre s'appelle « C'est les vertus de l'enfer ». Les vertus de l'enfer de Pierre Boulle, où en fait tu suis un mec qui a tout pour être qui est au fin fond de sa vie, un personnage que tu n'apprécies pas dès le départ, où tout est fait pour vraiment que tu le détestes, et comment petit à petit, par l'univers de la drogue en fait, et bien ce mec va se reconstruire, malgré cet univers-là, et dans quelle aventure tout ça va le mener. Donc je vous recommande aussi.
Ok.
Voilà, de mon côté.
Pierre Boulle, il n'a pas fait des films? J'aimerais bien voir un film de Boulle. Désolé pour cette blague. Dragor.
Désolé, je pourrais pas faire semblant de rire.
Dragor, quelles sont tes news geek?
Oui, alors j'en ai... Je suis en train de lire, enfin essayer de lire plutôt, un comics Star Trek en Klingon qui s'appelle Blood Will Tell, donc le sang parlera, et c'est assez dur, mais bon c'est assez amusant aussi. Je passe beaucoup de temps à chercher les mots dans le dictionnaire, mais du coup je progresse, ça me fait pas mal progresser, j'ai l'impression.
C'est fait par un fan ou
c'est plutôt sympa. C'est officiel. Ça a été traduit par plusieurs personnes du Klingon Language Institute. Et alors j'ai aussi acheté la suite parce qu'en fait c'est une série de 5 comics. Il y a que le premier qui a été traduit en Klingon. Donc j'ai le premier. J'ai aussi la suite en anglais que j'ai déjà lu en fait. Du coup ça c'est quand même plus facile en sachant ce qui se passe de suivre la version Klingon. Et c'est très très sympa. Déjà le concept est assez cool. En fait il y a une trame fil rouge qui se passe à l'époque de Star Trek 6. Pendant ou un peu avant Star Trek 6, en fait, juste après l'explosion de Praxis. Donc, c'est un membre du conseil Klingon qui doit voter justement pour savoir si l'Empire doit s'allier ou pas avec la Fédération. Et en fait, il discute avec sa fille et il lui montre par où il passe pour essayer de prendre sa décision parce qu'il sait que son vote va peser en fait au conseil. C'est un peu lui qui va devoir trancher en quelque sorte parce qu'il connaît à peu près les tendances des autres et c'est un peu moitié-moitié. Et en fait, il va chercher dans les archives de sa famille des événements, des rencontres entre les Klingons et les humains et la Fédération, pardon. Et du coup, en fait, à travers ça, ça revisite les épisodes de la série originale avec les Klingons, mais vu du point de vue des Klingons. C'est assez bien fait et c'est super intéressant.
Une fois que tu auras lu... C'est quoi? C'est une mini ou une maxi ongoing?
Je comprends pas la question.
C'est la série de comic book est en 6 chapitres, en 12 chapitres.
En 5 chapitres.
D'accord. Et bien, une fois que tu auras terminé de la lire, si tu veux, on pourra faire une review complète là-dessus.
En fait, la version en 6 chapitres... Enfin, la version anglaise, je l'ai déjà lue, en fait, donc...
Tu peux
faire une review, quand tu veux. Et la version Klingon, en fait, il y a que le premier. Et à la limite, je suis en train de me dire que c'est tant mieux parce que vu que je passe à peu près une heure par double page, je suis loin d'avoir fini.
Et oui, c'est du fanatisme.
Ça a l'air d'être vraiment complexe, ouais, comme langue à t'entendre.
En fait, c'est aussi compliqué que n'importe quelle langue qu'on parle.
En fait, c'est Klingon. Techniquement, relativement simple, parce qu'une fois que tu connais les suffixes, les préfixes...
Oui, bien sûr qu'il n'y a pas autant d'exceptions qu'en français, quoi. Mais bon, connaître les suffixes, par exemple, sur les suffixes de verbes, il suffit pas forcément de les connaître, quoi. Il faut voir comment les agencer entre eux pour dire ce que tu veux. Moi, je trouve que c'est quand même assez, assez complexe, quoi. Mais bon.
Moi, ce que je trouve sympa avec le Klingon, c'est que tu peux faire semblant de parler la langue facilement. Genre, tu fais « Ich tak par fuck ark et ich aïe !»
C'est le Klingon à l'envers, ça.
C'est magnifique.
Qu'allais-tu dire, Renaud?
Non, justement, parce que connaissant la race Klingon, justement, est-ce que tu as quand même beaucoup de mots différents qui viennent? Ils ont vraiment fait un dictionnaire, mais immense, ou c'est surtout peut-être lié à la guerre, ce genre de choses, la politique?
Ah, non, on peut vraiment parler de tout en Klingon. Après, il y a beaucoup de débutants qui cherchent leurs mots justement et qui n'arrivent pas à trouver les mots qu'ils veulent, mais c'est souvent parce que ils prennent pas la bonne tournure de pensée en fait.
C'est parce qu'il faut construire son mot des fois là.
Oui, voilà, c'est ça, on peut construire des mots, ouais, tout à fait. Ouais. Et après, il y a des nouveaux mots qui sont ajoutés tous les ans, en fonction des demandes de la communauté. Et bon, il y a Hamlet de Shakespeare qui a été intégralement traduit en Klingon.
Ah, c'est énorme.
Il y a je sais plus comment ça s'appelle, l'histoire de Gilgamesh qui a été traduite en Klingon aussi. Donc on peut vraiment, a priori, on peut tout dire en Klingon, quoi.
Ce qui est intéressant, par exemple, lorsque tu dis que Hamlet a été traduit en Klingon, ça donne une toute autre vision. Peut-être de l'œuvre, je pense.
J'ai pas essayé de la lire, j'ai déjà du mal à lire un comics alors où il y a des images. Alors...
Non, mais rien que, tu vois, le fait que je sache qu'il y a une version Klingon de Hamlet, je me dis, il y a un autre niveau de lecture possible de la pièce. Ça peut apporter quelque chose, non?
Ah oui, dans ce sens-là, peut-être,
ouais. Comme on dit, on n'a jamais fait l'expérience de Shakespeare quand on... Tant qu'on ne l'a pas expérimenté dans son Klingon original.
En autre news, c'est toujours lié à Star Trek d'ailleurs. Ce week-end, j'ai installé Star Trek Bridge Commander.
Oh,
un jeu, ouais, c'est un jeu Star Trek assez vieux. D'ailleurs, assez vieux pour être sur Abandonware, donc on peut l'avoir gratuitement en fait.
Ah, ça c'est une très bonne nouvelle.
Bon plan.
Et qui est très connu en termes de jeu de bataille spatiale. Il est même connu, on va dire, en dehors du cadre de Star Trek, parce que le moteur de jeu est assez réputé et surtout parce qu'il y a un système de plugin. Et du coup, on peut rajouter plein de trucs dedans, en fait, et notamment des vaisseaux d'autres franchises.
Ouais.
Il y a pas mal. D'ailleurs, je passe plus de temps à installer des plugins qu'à jouer. Il y a beaucoup de vaisseaux de Star Wars. Il y a beaucoup de vaisseaux de Stargate. Il y a pratiquement tous les vaisseaux de Babylon 5. Et j'ai même trouvé le TARDIS.
D'accord.
Et du coup, en fait, il y a un mode qui s'appelle Quick Battle où, en fait, on définit la bataille. Donc si je veux faire du Stargate versus Star Wars, on peut le faire, quoi. On peut le faire, on peut voir ce que ça donne. Et c'est assez marrant.
Juste une grande partie de mon adolescence qui est passée dans ce jeu-là.
Je te demanderai peut-être des astuces alors.
Bon, c'était cool tout ça. On va.
Maintenant, il va falloir bosser.
Allez, on va travailler. Allez, aujourd'hui, c'est la première émission sur 3. Nous allons parler de Space Seed, l'épisode 22 ou 23 suivant l'ordre de diffusion de la première saison, paru le 16 février 1967. Comment est-ce que vous voulez procéder, les gars? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, Renaud ou Absol, qui
oui, ou Charles, je peux faire le résumé, moi je l'ai prêt.
Nous t'écoutons.
Voilà, et vous complétez si besoin. Alors, Space Seed, du coup, ou Les Derniers Tyrans en français. Hein, alors, le résumé de l'épisode, on découvre, l'USS, du coup, découvre le Botany Bay. Donc un vaisseau qui a été lancé dans les années 90 pendant une fameuse guerre, les guerres eugéniques. Donc eugénique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'améliorer l'humanité via la génétique, donc en modifiant les gènes. Sur ce vaisseau-là, du coup, l'équipage de l'USS vont retrouver 72 personnes qui sont endormies, plus de 200 ans. Et ils vont déterminer que, en faisant une fausse manip, qu'il y a une cellule de cryogénie. C'est de la cryogénie, en fait. Moi, je suis parti là-dessus, mais...
Ouais.
Je suis pas sûr que ce soit précisé, la technologie utilisée.
Ouais, parce que c'est pas dit, en fait, durant l'épisode, mais... C'est pour ça, c'était la question con. Du coup, il y a une des chambres froides, entre guillemets, qui s'active pour réveiller la personne à l'intérieur, et ils en déduisent que c'est le chef du bâtiment. Spock va faire des recherches pour essayer de découvrir un petit peu pourquoi un vaisseau aussi vieux humain traînerait dans ça. Pendant ce temps-là, le chef, du coup, a été ramené sur l'USS Enterprise et se réveille. Et il va commencer bien comme il faut, puisqu'il va menacer la vie du Dr. McCoy. Voilà. Dr. McCoy, d'ailleurs, qui a quand même les couilles, parce qu'il ne réagit même pas. Il a un couteau sous la gorge et non, c'est pas grave. Oui, vas-y. Alors, la thyroïde, elle est un petit peu plus sur la droite, si tu veux.
Je trouve cette scène magnifique.
Il est génial, ce personnage.
Elle est géniale. Donc voilà, donc pendant ce temps, du coup, Spock fait des recherches et va découvrir, du coup, la véritable identité de leur invité, en fait, tout simplement. Alors, son nom, je vais en chier pour le prononcer, c'est Khan No. Nonien Singh, c'est bon?
Ouais, je t'en ai bien sorti.
Ah, ça me fait penser à un truc, le commandeur et JP. Nonien Singh, il n'y a pas un lien avec... j'ai perdu le nom. Le docteur qui crée...
Nonien Singh, c'est ça. Oui, ben en fait, il y a une histoire qui dit que Gene Roddenberry a connu quelqu'un du nom de Nonien Singh durant la guerre et aurait utilisé ce nom pour essayer de le trouver, là, mais c'est une espèce de semi-légende urbaine. Là. Mais est-ce que je sache, il n'y a pas vraiment de lien à faire jusqu'à temps qu'on arrive peut-être dans Enterprise, que là, le lien a comme été manufacturé, mais ça, on n'en a pas le rendu là.
Voilà, pour la petite info, la personne qui a créé Data dans la série Next Generation s'appelle le docteur Nonien Singh. Et dans la série Enterprise, on voit un de ses ancêtres. Bref, continue, Charles.
Donc voilà. Et donc, il découvre aussi que c'est un humain, en fait, génétiquement modifié, qui était chef de guerre pendant la fameuse guerre eugénique, et que c'était l'un des plus dangereux et qui contrôlait le tiers de la Terre. Khan va par la suite séduire par la force Marla MacGyver, qui va l'aider à réanimer le reste de son équipage et à prendre le contrôle du vaisseau. Par la suite, du coup, Kurt va être en mauvaise posture puisqu'il va être en grand manque d'air, littéralement, et dans une chambre de décompression. MacGyver va donc se retourner contre Khan pour libérer Kurt avec l'aide de Spock.
Elle va faire ça avec un petit tournevis et un élastique.
Avec un petit tournevis, ouais, voilà. Et du coup, ils vont réussir à arrêter Khan. Et on finit du coup l'épisode sur un mini tribunal où Kurt décide du sort de Khan et de ses hommes. Ils vont être du coup bannis sur la planète Celti Alpha 5. Une planète déserte mais habitable quand même. Et MacGyver décide de suivre Khan au lieu de passer en cours martial.
Très surprenante cette fin d'ailleurs.
Ouais.
Oui.
Mais on y reviendra un peu plus tard. D'abord, j'aimerais discuter un petit peu du début de l'émission.
Non, maintenant.
du début non, maintenant, de l'épisode, de ce que vous avez pensé, de cette mise en ambiance.
Alors, tu veux peut-être commencer comme j'ai fait le résumé ?
Non, non, vas-y, je te laisse sur ta lancée, c'est parfait.
Salopard, il a pas
envie de parler. Tu en as marre de parler.
Mais non, chacun son tour, quoi.
Non, d'accord. Ce que j'en ai pensé, c'est mitigé. Après, c'est le souci que j'ai maintenant, et je pense qu'ont tous les gens, c'est quand tu t'attends à quelque chose. Là, tu nous avais dit qu'on allait donc lancer la thématique sur Khan. Moi, bon, juste du personnage, même en dehors de Star Trek, bon, quand tu commences à parler de Khan, tu sais que c'est un personnage important, j'attendais un peu plus. Même si c'était la première saison Star Trek, je m'attendais un peu plus. Donc, mitigé, mais c'est parce que voilà, j'avais des attentes. Sinon, c'est comme on avait parlé lors de la première émission sur les épisodes pilotes, c'est les premières saisons de Star Trek, elles sont peut-être un peu kitsch, mais voilà, dans les thématiques et les sujets abordés, il y a des choses très intéressantes et on reviendra dessus. Et c'est surtout ça qui m'a bien intéressé, plus que le personnage de Khan en lui-même.
Ça t'a fait un peu l'effet dragon rouge du Silence des Agneaux ?
Ouais, il faudrait que je le revoie, Dragon Rouge, après...
Non, mais dans le sens où on est toujours déçu lorsqu'on apprend les origines. À part que là, du coup... En l'occurrence, les origines ont été écrites avant la période peu...
Ouais. Après, c'était pas tant les origines, c'était le personnage de Khan. C'était pas tant de savoir, la première fois qu'il est apparu, c'était de savoir comment il était traité dans les premières saisons. C'était plus ça. Mais en fait, j'avais pas d'attente particulière, mais c'était surtout l'attente simplement du personnage, comment il allait être. Et en fait, j'ai trouvé comme un épisode lambda, comme un personnage lambda qu'on aurait pu avoir dans un autre épisode.
D'accord, je suis pas du tout d'accord. Charles, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de manière générale ?
Alors, de manière générale, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je rejoins un petit peu quand même sur le côté déception, entre guillemets. C'est-à-dire que les fans de Star Trek parlent tellement de Khan qu'il est magnifique, il est machin et des trucs, que quand tu regardes un épisode qui va être centré sur lui, bah, tu dis, ouais, bon, ça va envoyer. Et là, tu vois l'origine du personnage, tu fais, ok, ça passe, mais je m'attendais à mieux, quoi. Voilà, il y a juste ce côté-là. C'est un petit peu... En fait, moi, je m'attendais un petit peu comme la première apparition d'un Dark Vador, tu vois. C'est un petit peu... Il a la même aura, en fait, au niveau du personnage dans Star Trek. Khan, où tu dis Dark Vador, c'est la même aura, c'est le grand méchant. Et là, entre guillemets, tu le vois arriver, tu fais ok, c'est un indien dans la ville, en fait, ok, ça marche. Désolé pour la blague, elle était pourrie. Mais après, sur l'épisode en lui-même, j'ai beaucoup aimé le rythme. Bon, il y a des combats qui sont un peu cheapos, hein. Mention spéciale au triple looping, quand même, du garde qui était devant la cellule de Khan. J'étais pris en deux.
Franchement, paye ton mec supérieur.
Ah ouais, non, mais là, il se prend un vol, quoi. Il se prend un triple looping, la pompe. Allez, au revoir. Mais là, du coup, t'as bien compris la puissance, en fait, du personnage. C'est tellement surréaliste, en fait, que tu fais, ouais, ok, il envoie, en fait.
Oui, non, j'ai pas compris de quel mec tu parlais. Je me suis trompé, excuse-moi. Non, je pensais que tu parlais du garde qui surveille Kirk lorsqu'il est dans le sas de...
Non, pas du tout. Moi, c'est celui-là qui gardait la cellule de Khan.
Donc, avant que Khan force la porte.
Ouais, il force la porte. Et après, il fout une droite au garde, et le garde fait un triple looping. C'est génial. Oui. Moi, j'ai adoré. Non, après, c'est vraiment un très bon épisode. Bon, après, il y a pas mal de choses à dire. Je pense qu'on on reviendra dessus. Mais j'ai bien aimé.
Dragor, en tant que connaisseur, je suppose que tu as fait tes devoirs. Est-ce que tu... as-tu pensé en le revoyant à nouveau, cet épisode?
Ouais, c'est un épisode que j'apprécie toujours. Je trouve qu'il y a un gros décalage entre la perception de Khan qu'il y a dans la pop culture et le Khan qui est dans l'épisode. Du coup, ça explique peut-être les réactions de Mokadé. Parce que ouais, c'est souvent dans la pop culture, souvent perçu comme le grand méchant, l'équivalent de Dark Vador, etc. Alors pour moi, c'est un personnage qui est beaucoup plus dans la nuance. Et du coup, l'épisode est très bon, mais c'est vrai que je suis d'accord avec eux, c'est pas non plus un épisode qui est vraiment supérieur aux autres dans la série originale. C'est un épisode qui est très bon, comme d'autres épisodes sont très bons, quoi. Mais donc, ça reste un épisode que j'ai beaucoup de plaisir à revoir, quoi, ça c'est sûr.
Et toi, JP, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode avec ton recul de connaisseur?
Je dirais un peu la même chose, c'est sûr que c'était pas prévu qu'il devienne le grand méchant de Star Trek. Ça paraît un peu quand on regarde la série originale, mais en même temps, je pense que le grand charme de tout l'épisode, c'est vraiment Ricardo Montalban, l'acteur derrière Khan, est tout simplement comme fantastique. C'est je pense que sa caractérisation du personnage, son sens de la supériorité qui transperce l'écran, je pense que c'est ça qui fait le personnage en tant que tel. Je pense que c'est ça, je pense, qui a inspiré justement les producteurs à faire venir le personnage en 82.
Ouais, il est clair que de toute façon, dès la première apparition, même alors qu'il dort, personnellement, je trouve que Khan a une classe, mais énorme. Il a un charisme qui transperce l'écran, c'est énorme.
Et il faut dire que le casting était, je dirais, inspiré un peu, c'est-à-dire de prendre un acteur mexicain pour jouer un personnage techniquement est d'origine hindoue, mais considérant la mentalité des années 60, c'était déjà quand même beaucoup. Je dirais pas félicitations, mais en même temps, c'est le mieux qu'il pouvait faire à cette époque-là.
Félicitations pour l'époque, en fait.
Non, mais ouais, c'est vrai ça. Que surtout quelqu'un qui a été pratiquement maître du monde, et qui est même admiré par les membres de l'équipage. C'est vrai que dans le contexte des années 60, c'est déjà bien que ça soit pas un homme blanc, quoi.
Oui, admiré et jalousé, et ça c'est vraiment très très important, oui.
Mm-hmm. Et sinon, je vous rejoins tous les deux sur le côté charismatique de l'acteur et du coup de ce qu'il donne au personnage, vraiment ce magnétisme. C'est presque du magnétisme, quoi, qui s'en dégage, et c'est assez bien rendu aussi par les réactions des autres acteurs autour de lui.
Je pense qu'il perd un peu en puissance par rapport à la relation qu'il a avec le personnage de MacGyver. Parce que je trouvais justement que c'était un personnage, tu vois, qui était réfléchi, dangereux. Il y a ce dîner où justement, mais pour moi, c'est la scène de l'épisode où en gros, t'as un échange verbal, comme on a pu le voir dans d'autres épisodes, une partie d'échec en fait, où t'as justement Kirk qui reste en retrait, t'as Spock un peu qui attaque et Kirk qui observe. Et je trouvais que justement, Khan s'emporte très vite et j'ai l'impression qu'en fait, il quittait la table pour se protéger, mais presque pour bouder, et qu'après, pour montrer sa puissance, il était obligé de martyriser la femme et de lui dire « Est-ce que tu seras voué à moi ? Sinon, va-t'en, j'ai pas envie de te parler. » Enfin, je trouvais qu'il perdait un peu en carrure, de manière imposante.
Après, de ce côté-là, en fait, il fait que bouder le personnage. Parce que quand t'as Kirk qui lui pose les premières questions, l'autre il fait « Oh, j'ai mal à la tête
!» Oui, voilà.
Mais sauf qu'il ne boude pas, en fait. C'est toute sa stratégie de manipulation pour s'emparer du vaisseau. Quoi.
C'est vrai que ça paraît un petit peu ça, quoi. Voilà.
Après, c'est ça le souci, c'est il va pour manipuler, après quand même il en espère beaucoup. Alors c'est vraiment alors qu'il est très fort. Bon, après, comme tu disais, il y a un quart de la planète, je crois, il me semble, qui était en son pouvoir. Alors, il devait vraiment être sûr à 100, voire 200% de la réaction de MacGyver pour lui dire « je vais prendre en otage l'équipage ». Ce qui lui balance son plomb dès le départ. Hein. Ça, c'est...
Ouais.
Bah, c'est-à-dire qu'elle est déjà en son pouvoir à ce moment-là. Effectivement, elle change plus tard. Mais quand elle suit sa stratégie, au départ, elle voulait vraiment le faire, quoi. Et je trouve que les scènes où il la manipule sont, sont assez, moi je trouve qu'elles sont assez bien faites. Enfin, pour avoir connu des personnes manipulatrices, c'est un peu comme ça qu'elles agissent, quoi. Elles soufflent le chaud et le froid.
Après, il y a une scène qui est très importante pour expliquer un petit peu pourquoi justement MacGyver est aussi manipulable. C'est la scène de remontrance de Kirk.
Ouais.
Donc MacGyver du coup qui était en extase quand ils l'ont trouvé endormi. Et en extase quand il était sur la civière en train d'être soigné. Et du coup, il y a Kurt qui vient un peu l'engueuler en lui disant « Non mais ça, c'est pas professionnel, faut arrêter quand même. » Et il explique bien la différence de comportement des hommes entre justement la période 2200 et la période 1990, où en 2200, on est vraiment sur le respect global, on va pas accoster dans la rue, ce genre de choses. C'est sous-entendu, c'est pas dit explicitement, mais c'est vraiment sous-entendu que à cette époque-là, on se conduit dignement avec les femmes. Et le fait qu'il puisse être un peu rustique, c'est ça qui l'attire, en fait. C'est le côté rustique. Mmh.
En plus du fait qu'elle est historienne et que c'est un de ses sujets d'étude.
En plus de ça. Mais il n'y aurait pas eu cette scène, je pense que la manipulation aurait moins bien marché.
Oui, elle aurait été moins crédible, c'est ça que tu veux dire ?
Voilà, c'est, ouais, moins crédible. Que ce retournement de veste comme ça aurait été moins crédible.
JP ?
Non, je suis d'accord. En fait, on voit justement qu'elle ne se sent pas à sa place nécessairement sur l'Enterprise, puis que le fait de rencontrer une figure légendaire, c'est comme quelqu'un qui je sais pas moi, qui étudie Joseph Staline, puis qui se ramasse une année devant lui, puis à force de l'étudier, devient comme un grand fan de... c'est dur à expliquer en tant que tel, mais tu sais, c'est ça, c'est à force d'étudier quelque chose, peut-être, tu sais, je pense que c'est aussi le fait que quand on étudie l'histoire, des fois, certaines personnes ont tendance à la romanciser, et je pense que c'est un peu ce qui arrive là.
On est tous fans de Jules César, hein?
Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps
d'ailleurs, oui, d'ailleurs, là, il y a un dialogue dans on parle de ça et c'est vachement intéressant. Ils font exprès, en plus, de choisir des figures historiques qui sont assez plutôt admirées.
Napoléon.
Ouais, il parle de Napoléon et je crois qu'il parle de César aussi.
Oui, il parle de César, oui. C'est Ken
directement aussi, je crois.
Il parle de l'empire de César avec Rome et tout ça.
Non, après, pour revenir à ce que tu disais, Dragor, c'est vrai que au final, c'est vrai que la position en fait est assez bien amenée du fait bon déjà que lui découvre le dessin, enfin qu'elle elle étudie justement les hommes de pouvoir du XXe siècle. Que ben, elle a pris en dessin, ensuite qu'il l'embrasse, c'est vrai que c'est étape par étape, et petit à petit, tu as raison, en fait, il commence à s'avancer, à s'approcher d'elle pour ensuite la mettre entre ses mains, quoi. Ça, c'est, au final, c'est vrai que c'est bien travaillé. Ce que, en fait, moi, je critiquais, c'était la première scène, en fait, où elle va voir cet homme-là. La manière dont c'est filmé, t'as presque l'impression que c'est pas tant le côté historienne, en fait, qui a l'air ébahi par cette découverte, mais plus une femme attirée par quelqu'un. T'as un gros plan, en fait, sur son visage, tu sais, très lumineux, très scintillant, en fait, où t'as l'impression qu'elle a des étoiles dans les yeux. Pour moi, c'était plus... Je sais pas, plus l'idée en fait qu'elle était attirée par cet homme plutôt que le côté c'est une découverte qui.
Ah mais je pense que c'est un mélange des deux en fait. Mais oui effectivement elle est attirée. Enfin même quand elle le voit.
Et Khan, je pense qu'il y a vraiment il y a une attirance sexuelle hein, de base.
Ah ouais. Oui,
dans la tenue dans laquelle il est quand il dort dans le caisson, tu vois à peu près tout quoi. C'est un truc un petit peu en maille comme ça avec des grosses mailles.
Donc mais oui, mais même moi, je lui sauterais dessus.
Ça, voilà. Ça va, ta femme n'était pas derrière, t'as pas entendu.
Comment ?
Justement, elle est d'accord.
Ta femme, t'as pas entendu, c'est bon.
Oui. Alors, je vais changer de sujet un petit peu. Non. Je vais changer de sujet un petit peu et me tourner un peu vers Dragor et JP. Il y a une scène qui m'a un peu surpris là, en la regardant. À nouveau, comment ça se fait que Kirk arrive à se souvenir que Botany Bay, c'est le nom d'une colonie pénitentiaire australienne ? Ok, Kirk est super brillant, on l'a déjà vu dans les séries, dans les épisodes précédents, on le verra dans d'autres épisodes, mais qu'il connaisse à ce point l'histoire de l'humanité sur ce... à ce point, enfin, je trouve que c'est énorme.
Ouais, je dirais que c'est simplement le fait que ça revient un peu à l'image des commandants de vaisseaux britanniques des années 1800, où ce que c'était des hommes de connaissance, tu sais, un peu comme la chanson « I'm the very model of a modern major general », donc quelqu'un qui est cultivé, qui a, donc quand tu es capitaine, c'est quelqu'un de cultivé, et non pas, pas juste, tu sais, qui n'est pas juste capable de se défendre, qui n'est pas capable de commander, mais quelqu'un qui a de la culture raffinée et qui a des goûts exquis. T'sais, il est capable de citer Paradise Lost de Milton et compagnie. Donc, je pense que ça a toujours été un peu dans le personnage en tant que tel, ou même justement dans le style de capitaine que Gene Roddenberry voulait un peu illustrer. C'est l'image d'un capitaine britannique là, à la grande époque britannique. Là.
Après, moi, si je peux me permettre...
Juste, Charles, j'en profite pour vous conseiller, très chers auditeurs, la série The Terror, qui est sur Amazon Prime, qui est vraiment une série justement basée sur les capitaines de vaisseaux anglais, et qui est magnifique. Vas-y Charles, excuse-moi.
Tu m'avais pas dit qu'on faisait de la sponsor?
Oui, j'ai été sponsorisé par Amazon Prime. Amazon Prime, votre livraison par drone, tous les 15 jours.
Pardon. Non, après, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais là, pourquoi ça t'a choqué, moi, en fait, je l'ai pris un petit peu comme quelqu'un d'aujourd'hui qui connaît les camps d'Auschwitz. Tu vois, c'était une période charnière qui a été dans la période qui a décimé des trois quarts de la population, je crois.
Ouais, mais les camps d'Auschwitz, c'était il y a 60 ans. Là, on parle de il y a plus de 300 ans.
Ouais, mais. Alors 200, du coup. Et tu penses vraiment que dans 140 ans, on parlera plus d'Auschwitz?
Non, mais Auschwitz, c'est particulier. Botany Bay, aujourd'hui, personne n'en parle. Sauf peut-être Sean de Trek on the Tube.
Les Australiens.
C'est là... Ouais, les Australiens. Mais comme là, en fait, ils disent que c'est là où a été enfermé les plus grands criminels de cette période-là, est-ce que justement, ça serait pas dans les livres d'histoire, en fait, tout simplement? Dans la culture générale, en fait.
Faut dire aussi que justement, c'est dans la culture, ce serait peut-être dans la culture militaire, justement, là, certains trucs, justement, l'histoire militaire humaine, britannique, américaine, doit sûrement rentrer dans le cursus d'apprentissage. On s'entend, là, il passe 4 ans à Starfleet Academy, plus probablement un camp d'entraînement ou des cours pour devenir commandeur, capitaine. Donc, je suis pas mal certain que si on demande à beaucoup de militaires qui ont passé par un cursus pour devenir un officier commandant, il y a beaucoup d'histoires militaires qui vont rentrer en compte là, là-dedans. Là.
OK.
Et après, au pire, moi, ça me choque pas d'imaginer qu'il s'en est souvenu par un coup de chance parce qu'il l'avait lu quelque part, quoi. Au pire...
Oui. Après, bon, de toute façon, quitte à mettre ça autant le mettre sur Kirk plutôt que sur l'ordinateur qui dit Botany Bay.
Ouais. Ben, faut dire aussi qu'à cette époque-là, on parle des années 60, les gens n'avaient pas Wikipédia, donc on avait encore l'habitude de se rappeler de certaines choses, de l'histoire. C'est une autre. Je sais pas si c'est malheureux ou c'est heureux, on se sera à voir dans le futur, mais la manière qu'on apprend d'aujourd'hui versus la manière dont nos parents, nos grands-parents ont appris les choses, ont fait leur histoire. Je parle simplement de la manière que c'est illustré dans l'épisode. Là. Ils ne pouvaient pas penser que... Ben, je sais pas s'ils ne pouvaient pas penser, mais c'était pas... C'est le fait d'avoir une base de données comme instantanée au bout des doigts pour se rappeler n'importe quoi, peut-être un petit peu trop avant-gardiste pour...
Ouais, non, je vois ce que tu veux dire.
Sachant que dans TNG, où ça apparaît, cette idée-là, c'était déjà très avant-gardiste. C'est vrai que... Donc, effectivement, dans les années 60... Mais Botany Bay, peut-être que dans le monde anglo-saxon, c'est un peu plus connu aussi que...
C'est vrai.
Qu'en France, par exemple, parce que il y a quand même eu beaucoup de gens qui s'y sont retrouvés, et c'est comme ça que l'Australie s'est créée, quoi. Donc, et comme ça a été une colonie britannique très importante à une époque, je pense que ça fait partie de quelque part de l'histoire des Anglo-Saxons.
C'est pas faux, totalement. J'avais une autre question, je vais encore changer de sujet, et après je laisserai la parole à nos très chers cadets. Est-ce que un d'entre vous quatre comprend ou connaît un peu le Morse? Parce que au début
je connais le Morse, mais je sais juste faire SOS, moi, en fait.
parce qu'au début de l'épisode, il capte du Morse. Et alors, je regarde en version originale sous-titrée, mais là, cette partie-là, j'ai pas très bien compris ce qu'elle disait Oura en anglais, évidemment. Mais dans le sous-titre, elle disait QC, QC. Qu'est-ce que ça veut dire QC, à part Québec City?
Je pense que c'était peut-être une espèce de mauvaise traduction de CQ, parce que je sais que c'est un
Tango
code.
Charlie.
Ah,
Ah.
ok.
Non, non, il se fout de
Ah.
ta gueule. Vas-y, vas-y,
Non,
JP.
mais c'était sérieux. C'était sérieux.
Mais non, mais ça peut être CQ, je sais que c'est un code dans les radios CB.
C'est on vous
CQ.
cherche, quoi. Si, oui, CQ. Non.
Encore là, c'est ça, ça a été traduit de
C'était même ma
façon.
réponse.
C'est pas la meilleure traduction au monde, on s'entend, là. C'est doublé au Québec.
Non, mais là, je parlais du sous-titrage, hein, pas de la doublure.
Ah,
Hein. Non, non, je regardais en version originale.
En VO, c'est ça aussi, hein, c'est CQ, CQ.
Non, c'est ça. Donc, CQ, c'est vraiment un code en radio onde courte. Donc, si je cherche 2 secondes, justement, je vais chercher dans mon cerveau secondaire, Wikipédia. Donc, CQ est un code utilisé par les opérateurs de sans fil, particulièrement utilisé en code Morse, donc, mais peut aussi s'appliquer aux opérateurs en voix. Donc, ça implique que c'est une invitation pour n'importe quel opérateur qui écoute à la fréquence à répondre. Donc, c'est simplement pour dire si vous
Ok.
écoutez, répondez. CQ.
Juste, Charles, il me semble que tu regardes en version française, non?
Oui.
Est-ce que tu te souviens de ce que dit le
Alors, je
Botany
l'ai pas
Bay à ce moment-là?
noté, mais de mémoire, il tente de nous contacter. De mémoire, elle traduit pas, en fait.
Ok.
Voilà.
Bon, allez, j'ai
De
arrêté.
ce que je me souviens, ouais, c'est ça.
J'arrête avec mes questions un peu reloues. Je vous laisse la parole, mes très chers cadets. Qu'avez-vous de plus à dire sur cet épisode magnifique?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la relation entre Kirk et Spock qui se dessine. Ah, parce que moi, du coup, on avait regardé les pilotes et on est passé directement des pilotes à cet épisode-là. Et on sent vraiment que la relation, c'est une relation qui est en train de se former et une relation de confiance. Il y a même Kirk qui cherche un peu Spock. J'avais noté, moi, justement, qu'il le cherche un petit peu, comme il trouve pas les informations du premier coup sur le bâtiment, qu'il n'est pas dans les registres, en fait. Ah, et ça vous agace? Non, mais je peux pas ressentir cette émotion. Ouais, c'est ce qu'on va dire, quoi. Enfin, il y a plein de petits pics, en fait, comme ça, où ils vont se chercher un petit peu, notamment au tout début, où ils voient le vaisseau, Spock dit, non, mais non, à tous les coups, c'est pas un vaisseau humain. Ah, mais c'est un vaisseau humain. Ah, bah, vous voyez, c'est un vaisseau humain. Oui, en fait, vous cherchez constamment à me mettre en tort, quoi. Voilà. Il y a une petite relation comme ça d'amitié qui est en train de se construire où ils se cherchent un petit peu tous les deux. Et on le ressent bien notamment au niveau comment on décrit la scène, où justement il y a MacGyver du coup qui va sauver Kirk. Elle le sort à l'instant de la chambre et il y a Spock qui est avec un garde ennemi. Et donc limite il comprend que Kirk en fait est derrière, il va neutraliser l'ennemi directement. Alors que Kirk n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit, en fait. Il a juste le temps de lever un petit peu l'arme. Il y a vraiment une symbiose, en fait, qui se fait entre ces personnages-là.
C'est vrai, c'est totalement vrai. Au fur et à mesure du temps, ça c'est pas mal joué entre Spock et Kirk. Vous m'arrêtez, Dragor et JP, si je dis des bêtises, hein. Mais c'est vrai que la relation Kirk-Spock est énormément développée au fur et à mesure des 3 saisons. Et dès la moitié de la première saison, on sent qu'il y a cette petite amitié relativement profonde qui se crée et justement ce que pense l'un, l'autre le décèle rapidement.
Oui, et même j'ajouterais que ça s'ajoute avec celle de McCoy. Ben, ça se voit pas dans les épisodes que les cadets ont. Mais ces trois-là, il y a certains épisodes où c'est super bien rendu par le jeu d'acteur, mais ils communiquent par le regard en fait. On les voit se jeter des regards et on comprend qu'ils se sont compris entre eux juste en se regardant et c'est
Alors,
super
dans
bien fait, je trouve
l'épisode,
ça assez
là,
magique.
on le voit un petit peu, c'est la scène où justement il y a Khan qui les a mis dans une pièce et les font regarder, du coup, Kirk qui est en train de suffoquer. Et ils se regardent un petit peu entre eux en disant, non mais les gars, c'est bon, on reste humble, on fait rien. Et il y a ces petits regards qui passent un petit peu entre eux.
Ah oui, c'est vrai, ouais.
Ah, c'est quand même drôle, justement, quand on considère qu'en même temps, il y avait les acteurs qui, surtout Shatner et Nimoy, qui étaient qui se tiraillaient un peu par rapport à la... Parce qu'il y avait Shatner qui était jaloux de la popularité du personnage de Nimoy, et ça commençait à faire chier un peu les produits. C'était peut-être pas encore rendu là, mais je pense que peut-être que Shatner peut-être commençait à sentir le... que son personnage n'est peut-être pas aussi important, mais pas populaire que Spock. Là. Parce que Shatner a toujours été quelqu'un qui préfère le spotlight sur lui plutôt que sur quelqu'un d'autre. Mais justement, j'apprécie le fait qu'ils sont capables, on est capable de ne pas voir ça au travers de l'écran. Là.
Mais j'aime beaucoup dire que Shatner a un ego, est la seule personne à avoir un ego plus égocentrique que moi. Donc là, ça prouve à quel point, oui, ça a dû être compliqué pour lui de jouer ce genre de choses.
Mais le fait que tu dis que t'es égocentrique, ça annule le fait pour l'être.
Non, non, je m'aime et je sais pourquoi et c'est normal. Franchement, tout le monde voudrait être moi quand je me vois dans un miroir le matin.
Le miroir, il est à ras du sol alors.
Parce que tu sais qu'il y a quelques jours, alors pour la petite histoire pour les auditeurs, je travaille dans un magasin de chaussures et il y a quelques semaines, une dame, une cliente, m'a dit « Ça va vos chevilles, elles enflent pas trop ?» Et je lui ai répondu « À votre avis, pourquoi est-ce que je travaille dans un magasin de chaussures ?» Mon Dieu. Bien.
Pas mal.
Et du coup, la preuve qu'il dit la vérité quand il est égocentrique, c'est qu'il a réussi à ce qu'une partie de l'épisode lui soit consacrée.
Quoi?
Ça fait une minute qu'on parle de toi, en fait.
Oui, totalement. Attends, j'ai lancé un podcast. À la base d'un podcast, c'est pour parler de moi avant toute chose. Je suis quand même là pas pour rien. Non, bon, allez, après cet humour n'importe quoi. J'ai beaucoup aimé l'humour dans cet épisode, dans la première partie. Et puis d'un coup, paf, on arrête l'humour et on parle de choses extrêmement sérieuses. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça.
Cette relation Kurt et Spock qui se cherchent au début et à partir du moment où... qui ont l'air de se titiller, mais un petit peu tout le temps. Et à partir du moment où ça devient sérieux, où on voit que Khan, risque d'être dangereux, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de lagunette, il n'y a plus rien, les gars, pour essayer de gérer l'ennemi. Et justement, on voit le changement d'attitude. Il y a Kurt et Spock, du coup, il y a Khan qui commence à être dangereux, et puis du coup, ils se mettent en mode stratégique, Spock qui harcèle Khan, et puis Kurt qui l'étudie un petit peu derrière pour vérifier la menace.
Ouais, ça a toujours été comme ça. C'est aussitôt que la soupe chaude commence à arriver, ça devient sérieux.
Parce que toi, Rémi, en fait, quand tu penses à quelle scène particulièrement quand tu parles de l'humour
Je pense à la scène où Kirk commence à partir de du pont. Je sais plus, il demande à certaines personnes de venir sur le Botany Bay, d'être téléporté avec lui. Et il se retourne au moment de prendre l'ascenseur et il dit « Oui, comment elle s'appelle l'historienne là ?» MacGyver, c'est ça, ouais. Allez, faites-la venir pour une fois qu'une historienne sera utile. Et là, j'ai tellement, mais tellement ri. Je me suis dit « Mais quel gros connard
!» Mais au-delà de la blague, c'est intéressant parce que ça montre le côté isolé de MacGyver.
Oui.
Et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi elle peut aussi facilement tomber dans le piège de Khan. Et aussi, quand elle voit l'unité de l'équipage, justement, quand Kirk se fait torturer, ça peut expliquer aussi son changement de d'avis pour trahir Khan, quoi.
Et oui, comme totalement. Tu dis aussi par rapport au docteur, aussi le métier d'historien. Est-ce que plus tard, justement, JP t'en parlait avec le fait qu'on ait l'information directement et qu'on n'ait plus à la rechercher, est-ce que les historiens, il y en aura toujours besoin du fait qu'aussi on ait cette information et l'histoire à portée de main? C'est peut-être aussi là que, sans peut-être le vouloir, mais maintenant pour nous ça a de l'impact, peut-être aussi, c'est peut-être une petite phrase anodine, mais qui a du sens désormais.
Non, je suis d'accord, mais en même temps, je pense que les historiens vont toujours être nécessaires pour mettre en contexte les faits historiques. Et éviter la polarisation ou la distorsion des faits par le courant politique courant là, à l'époque où l'histoire est interprétée.
Comme toi ici, JP.
Ouais.
Il y a ça, okay. Puis je pense que l'histoire, on peut constater maintenant, il y a des découvertes qui sont faites grâce aux nouvelles technologies. Donc avec toutes les technologies qu'ils ont au 23e siècle, ils peuvent étudier l'histoire de manière encore plus poussée que ce qu'on est capable maintenant. Donc il y a toujours du sens. Et il y a un truc qui est pas forcément mis en avant avec ce personnage puisqu'elle étudie la Terre, mais il y a la xéno-histoire en quelque sorte qui apparaît, c'est-à-dire qu'ils étudient l'histoire de civilisations extraterrestres.
Oui, entièrement d'accord. D'ailleurs, Picard en est un fier exemple.
Oui, j'y pensais, effectivement.
Après, Kirk avait un peu prophétisé ce qui allait se passer, hein, parce que quand il fait la remontrance à MacGyver, il lui dit justement qu'un seul membre de l'équipage qui fait une connerie peut faire tomber le vaisseau. Et c'est basiquement ce qui se passe, en fait.
Ouais.
Ouais, et autre que ça, tu te rends compte à la fin que lorsque Khan a capturé tout l'équipage et qu'il menace Kirk, et puis au fur et à mesure chaque personne, sans même un regard où les autres peuvent être en doute ou se dire « Tiens, peut-être que lui va capituler, il va nous sauver », ils ne font qu'un, quoi. Là aussi, cette scène est puissante parce que même la femme qui se fait frapper, elle ne parle pas, quoi. Ne parle pas et t'as une puissance de... Ouais, c'est cette équipe, quoi, c'est super bien montré, je trouve.
Après, quand même, mention spéciale au docteur McCoy pour cet épisode. Vraiment, c'est un personnage qui a beaucoup de charisme. Il dit pas grand-chose, mais qui a beaucoup de charisme.
Oui, tu parles notamment...
La scène où il est menacé, c'est vraiment très fort, hein, sa réaction. Hyper, hyper calme.
À moitié étranglé avec
lui,
un couteau sur la gorge, il dit à son agresseur, non mais tu choisis en fait, tu m'étrangles ou tu me poignardes, mais choisis, décide-toi. Et il lui balance plusieurs fois comme ça des pics, justement pour le pousser à bout, entre guillemets. Alors t'as l'impression, si tu faisais que entendre, t'aurais l'impression que le mec a envie de mourir, mais quand tu vois son visage, tu fais, non mais en fait le mec, il a juste les bolosses, qui est juste là en train de le provoquer, en train de dire, bah, vas-y, fais-le, arrête d'attendre. Là.
Mm. Ouais, c'est une manière de montrer que ces menaces marcheront pas en fait, et qu'elles ont pas de sens.
Ouais, mais c'est très très courageux quand même parce qu'il aurait pu tomber sur une espèce de psychopathe qui lui aurait dit ok je fais les deux en même temps et puis on n'en parle plus.
Oui, mais si ça avait été ça, il l'aurait déjà fait en fait. Et je pense qu'il le sait.
C'est vrai, c'est vrai. Ce qui m'amène quand même à penser à cette magnifique, mais vraiment, quand j'ai revu la scène là, je trouve vraiment ça super. La scène de Kirk Fu dans la salle des machines. Avec dont on parlait, on en a parlé un peu dans l'épisode pilote, le double fist Kirk qui est magnifique.
Ouais, ouais.
Il y en a trois.
Oui, il m'a semblé qu'il y en a. Ouais, j'en ai vu un particulièrement. Les autres, j'ai pas fait attention.
Ben, en fait, dans une seule séquence, il en cale trois. Pam, pam, pam. Il lui met. On oublie qu'il y a plein de doublures, enfin que c'est tout le temps la même doublure, mais une scène comme ça, il lui prend... Il y a une scène de catch où il saute sur le mur, il lui chope les jambes entre le cou et hop,
ouais.
il le balance par terre. Je trouve ça génial. Une scène comme ça tournée aujourd'hui, on dirait que c'est une des meilleures scènes de baston de tous les temps. C'est génial.
Oui, ouais. C'est la manière de filmer qui peut faire que ça paraît ridicule.
Exactement.
Mais en fait, il y a beaucoup de chorégraphies maintenant qui sont complètement ridicules, mais comme c'est filmé de très près avec du shaking caméra, on voit à peine ce qui se passe. Du coup, ça a l'air vachement bien, mais en fait, il cache beaucoup la misère, quoi.
Et d'ailleurs, mes nombreuses visites au set tour à Ticonderoga m'ont fait remarquer certaines choses dans la salle des machines en tant que telle. Premier fait que l'espèce de bâton que Kirk utilise pour rassembler Khan, ce n'était que pour cet épisode-là. Ça n'ont jamais réapparu par la suite. Et ensuite, quand on regarde la salle des machines, il manque le gros réacteur au milieu. Fait que la salle est entièrement vide parce que normalement, il y a une espèce de gros réacteur en matière antimatière dans le milieu de la salle qui est absent. C'est quand même intéressant de voir qu'ils n'ont pas hésité à déconstruire certains éléments de la salle des machines juste pour faire de la place pour la bataille. Là. Moi-même, ajouter des éléments pour le bien de la scène. Là.
Après, le seul défaut vraiment de cette scène de combat, c'est la fin. Il frappe avec le marteau, là, tu fais « Oh là là, oh là là, il frappe pas, là. Là, il frappe pas du tout. »
Les deux derniers coups sont dans le vide, ouais.
Oh, ils sont moches. Ils sont très, très moches. Là, tu sens que ça vieillit, quand même.
Le flingue aussi que Khan broie dans ses mains.
Ouais.
Boulette de flingue.
La pâte à modeler, je ne sais pas ce que c'est, mais.
L'image est belle quand même, parce que tu vois le visage de Kirk qui se déconstruit.
Ouais, c'est vrai que maintenant on regarde ça avec des grands écrans en full HD, machin. Je pense à l'époque, ils regardaient ça. Il y a la moitié des gens qui regardaient Star Trek. Déjà, c'était en noir et blanc parce qu'ils n'avaient pas la télé couleur. Et c'était des télés minuscules qui devaient faire, moins de 15 pouces, peut-être 12 pouces, à moitié flou, en cathodique. Donc, je pense que ces détails-là, ils les voyaient pas du tout, quoi.
Non, c'est sûr. Il y a beaucoup de détails qui paraissaient pas à l'époque, là. Surtout que juste avant, à cette époque-là, très peu de gens regardaient en couleur en plus.
J'avais vu dans des bonus, je sais plus où, que en fait il y a cette chaîne de télévision qui pouvait pas passer directement d'enregistrement. Donc en fait ils projetaient les épisodes des séries qu'ils diffusaient sur un écran et ils filmaient cet écran avec la caméra du direct.
Oui, en effet ça. Ah,
donc vous imaginez la perte de qualité qu'il y a.
Le bricolage quoi.
Et est-ce qu'on peut lancer le sujet difficile?
Vas-y, c'est quoi?
La technique de yoga. Des êtres supérieurs.
Ah comment ça? Qu'est-ce qui va pas?
Ah oui, j'avoue.
Les étirements, là?
Oui.
Ouais, c'est ridicule.
Non, mais là, pour ça, je vais prendre un peu la place du commandeur et de JP. On est dans les années 60 et on parle de personnes qui sont des Indiens d'Inde. Et du coup, ils se sont dit, ouais, qu'est-ce qu'ils font les Indiens d'Inde? Ben, ils font forcément du yoga.
Pas tout l'équipage, Rémi. Tous, quand ils se réveillent, ils font les mêmes exercices.
Ben, ils suivaient Khan, qui est indien, donc ils ont suivi ses ordres, ses leçons. Non, ouais, vous n'êtes pas d'accord.
Coup, c'est pas trop en faveur de l'épisode, en fait, parce que c'est un gros cliché raciste, du coup.
C'est un gros cliché raciste, mais d'époque. C'est compliqué. C'est, ouais. C'est comme le féminisme d'époque.
Ouais.
Mais c'est vrai que la série originale a été en avance sur pas mal de choses, mais elle a aussi maintenant, de nos jours, et heureusement d'ailleurs, elle a vieilli pas que visuellement, elle a aussi vieilli dans les mentalités, quoi.
Oui, d'ailleurs, c'est...
Je pense qu'ils auraient pu faire quand même cette idée du yoga, mais beaucoup moins appuyée ou beaucoup moins forcée, en fait.
Juste pour revenir sur l'idée du cliché, c'est un des seuls épisodes où on devrait voir la culotte du Uhura, mais qu'on ne la voit pas. Quand elle est allongée par terre, complètement évanouie, elle a la jupe totalement relevée. Et en fait, on se rend compte qu'elle a une doublure dans sa jupe. Bref.
Tu vois, ça, c'est le genre de truc que je remarque pas.
Désolé, JP. Non, mais moi, parce
c'est un des trucs qui m'avait choqué quand j'avais, enfin qui m'avait surpris quand j'avais regardé la série originale. Il y a vraiment pas que dans cet épisode qu'on la voit. En fait, c'est une espèce de surculotte qui a par-dessus le collant, et elles ont tout ça. Les femmes en uniforme dans la série originale, et en fait ça arrive à très très souvent qu'on voit des culottes, quoi. Je me rappelle quand j'avais commencé, j'avais fait un post sur Facebook, je disais je me croirais dans un manga ecchi tellement on voit de culottes, quoi. J'avais trouvé ça assez étonnant, quoi.
N'importe quoi.
Voilà, c'est le féminisme des années 60. Il y a des femmes sur le pont, mais on voit leurs culottes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au racisme. C'est un pas en avant, mais en fait, c'est qu'un demi pas en avant, je pense.
Et on voit leurs culottes, mais bon, vu les... C'est plus ou moins justifié. Quand elles sont à terre, elles sont assommées. Bon, la culotte, la jupe va pas tomber à pile droite, machin.
Ouais, mais c'est bon, justement la courtesse de la jupe, en fait, le problème.
Ça serait la jupe, le problème. Mais dans les années 60, voir une femme en pantalon...
Ben, dans le véritable épisode pilote, elle a un pantalon, la number one. Ouais. Mais bon, on voit pas le petit...
C'est une des raisons principales pour lesquelles il a été refusé.
Oui. Mm. Bon, quoi d'autre sur cet épisode?
Je pense qu'on en a dit pas mal, non?
J'aimerais revenir, moi, sur... Pardon, vas-y, Charles. Renaud.
Non, l'idée de... Justement, par rapport à ces hommes de pouvoir, de dictature, quand ils en parlent autour de la table et que Spock ne comprend pas de quoi parlent des humains, ils disent, mais attendez, mais vous êtes en train d'avoir de l'admiration pour cet homme. Ils se moquent un peu de lui, mais en même temps, voilà, il y a cet échange qui aurait été super intéressant s'ils avaient un peu plus détaillé. Bon, après, l'épisode dure 50 minutes, donc pas évident. Mais je trouve que c'est intéressant comme scène, peut-être, pour développer.
Oui, ce que nous pouvons être à l'encontre de notre adversaire et pourtant l'admirer. Et quelque part, je vais vous spoiler un petit peu, mais je trouve, JP et Dragor, vous allez me contredire s'il le faut, mais je trouve que c'est ce que Khan fera dans le prochain film? Est-ce qu'on n'aurait pas là une inversion des rôles entre Kirk et Khan?
Je n'avais pas fait le rapprochement, mais maintenant que tu le dis, effectivement, ça, ouais, ça fonctionne. Ouais, oui et non. En fait, faudrait que je revoie la colère de Khan, mais...
Mais c'est pour bientôt.
Ouais, il est plus, il est, enfin, moi dans mon souvenir, il est quand même plus dans la, dans la, dans la folie et la haine vengeresse que dans le, l'admiration quand même de Kirk, quoi.
Ouais, je dirais un peu la même chose en sens que justement, c'est, ça se pose, tu sais, c'est, ça reste dans le deuxième, c'est vraiment une vengeance plus que de l'admiration. Tu sais, peut-être qu'il va le, il va apprécier son, comme, son style de commandement ou son, moi, je sais pas. Je sais pas comment dire.
Par contre le côté admiration qu'il a pour Kirk, par contre, pour moi, il l'a en fait à partir de la fin de l'épisode où il admire la décision de Kirk.
Oui.
Déjà, il admire Kirk pour l'avoir vaincu et il l'admire pour la décision qu'il a prise de lui donner un monde à conquérir, du fait qu'il a réussi à comprendre comment lui il fonctionne, sa mentalité et la manière la plus efficace de le neutraliser. Je pense qu'il l'admire pour ça. Et alors, c'est pas canon, mais le comics Khan Ruling in Hell, désolé pour l'accent, qui se passe entre justement cet épisode et la colère de Khan, développe vraiment ce côté-là. Et effectivement, dans ce comics, il est vraiment admiratif de Kirk. Mais parce qu'il se remémore la victoire de Kirk sur lui et les décisions qu'il a prises. Alors, jusqu'à ce que, voilà, je ne veux pas dire la suite, mais bon,
ne spoil pas trop, parce que je pense qu'on va en parler dans ces micros dans peut-être un épisode ou deux. Mais vas-y, vas-y.
Ah, ben c'est bon, j'ai terminé.
Désolé.
Pendant qu'on est dans les comics et romans, ben, je pourrais mentionner aussi les romans de Greg Cox qui traitent de Khan. Justement, les deux premiers traitent de son règne sur Terre, le premier roman étant sa montée au pouvoir, le deuxième étant sa descente aux enfers, et le troisième traitant vraiment de Seti Alpha 5. Il y a un beau crossover avec Gary Seven dans les deux premiers romans aussi, pour ceux que ça peut intéresser. C'est une très bonne lecture.
Disponible uniquement en anglais, non?
Sur Amazon.
Ah, ouais, sur Amazon, probablement en anglais. Donc, apprenez l'anglais.
Sauf si vous connaissez d'autres moyens et d'autres traductions.
Ouais.
Dont on ne parlera pas ici.
Mm-hmm. Mais c'est des fans traduits de romans, ça doit être assez rare, je pense.
Ah, moins que ce que tu penses. Allez, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah si, non, si, moi j'ai noté un truc, si vous avez rien à dire.
Bon, j'ai des trucs à dire, mais vas-y.
J'ai un truc, mais pour finir l'épisode.
Eh bien, alors, ce sera pour finir l'épisode, mon ami.
La dernière phrase de Spock.
Ouais. Voilà. Il y a un moment dans le début de la série. On en a déjà parlé, les fameux vaisseaux des années 90. Ça vous fait quoi de savoir que nos vaisseaux spatiaux seront toujours connus dans 200 ans? Et il y a un truc magnifique. Il y a le docteur MacGyver qui dit que l'on utilise donc cette technique de, pas de cryogénisation, mais je ne sais plus le terme, jusqu'en 2018.
Ouais, tout à fait, c'est vrai, j'avais noté.
Voilà, c'est cool.
La cryogénisation, on sait le faire. On ne sait pas faire le vaisseau, mais...
En fait, c'est de l'animation suspendue.
On ne sait pas réveiller les gens non plus.
Mais c'est Walt Disney, non, qui est en cryo actuellement, non?
C'est une légende urbaine, mon cher.
Ah, je suis dégoûté.
JP, notre débunker officiel.
Ouais, ça me fait plaisir de détruire tous vos espoirs et vos rêves.
Salaud!
Mais Michael Jackson est sur une île déserte avec Elvis et JFK.
Ah, voilà, ça c'est vrai, ça.
Et alors, attends, pour faire un petit peu d'autopromo pour ma région que j'aime tant, il y a une vidéo qui est sortie il y a... Ben, quand est-ce que Michael Jackson est décédé? Il y a 3 ans? 4 ans?
Beaucoup plus,
Rémi.
Il y a une vidéo qui a été largement diffusée sur Facebook qui disait « Michael Jackson n'est pas mort, on l'a retrouvé dans le Gers en train de conduire un tracteur ». Et dans la vidéo, on voit un mec qui ressemble énormément à Jackson. Et c'est vraiment lui, moi je suis persuadé que c'est mon voisin.
C'est quand même admirable et génial les animations dans ta région, Rémi.
Oui, écoute, il pleut moins souvent qu'à Pau. Boum. Allez,
oui. Pour revenir au sujet, en fait, c'est pas de la cryogénisation, c'est de l'animation suspendue.
Merci
Suspended
beaucoup.
Animation en anglais. Voilà. J'ai essayé de retrouver depuis tout à l'heure.
Terme qui est juste assez générique pour pas qu'on puisse trop
connaître la technologie.
Ouais. Et ça me fait penser, j'y pense, c'était pas dans mes notes, ça me fait penser un peu à la technique qu'ils utilisent dans le premier film, La planète des singes. Les quatre personnages du vaisseau spatial sont dans des cuves. Et il y a juste une lumière, et on ne sait pas. Et d'ailleurs, dans Aliens aussi, dans le premier Alien, dans toute la saga.
C'est assez récurrent dans la SF, en fait, qui se veut réaliste, où ils décident de ne pas franchir la barrière de la vitesse de la lumière. Ils prennent ce principe-là. Chez Arthur C. Clarke, dans les Odyssées, c'est aussi ce qu'ils utilisent pour se déplacer.
Oui, non, le compte est bon.
La comtesse est pas mal non plus. Avançons jusqu'à la conclusion de cet épisode. On revient avant, Charles, excuse-moi à nouveau de te retarder. Est-ce qu'on revient un petit peu sur la décision de Kirk à propos du futur de Khan ?
Oui.
On sait très bien que ça va merder.
D'accord. Est-ce que vous le savez parce que vous savez qu'il va y avoir un film, enfin même deux là-dessus dans l'avenir, ou vous le savez parce que vous trouvez bizarre, extrêmement bizarre ? Parce que moi, je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Est-ce que ça n'était pas prévu dans le scénario de faire revenir Khan peut-être dans une saison ultérieure ?
Je peux te garantir que non. C'était Harve Bennett en 81 qui a été engagé pour remplacer Gene Roddenberry à la production. Il s'est tapé les 79 épisodes originaux, puis il a vu Khan, puis il a fait « Lui, il revient !» C'est comme ça que la colère de Khan est née.
OK. Renaud,
c'est vraiment comme ça.
Oui, surtout qu'il y a plein d'épisodes de la série originale où on pourrait se dire « Tiens, il pourrait y avoir une suite à celui-là, et puis finalement, il n'y en a pas. » C'est assez marrant, d'ailleurs, il laisse des pistes un peu dans tous les sens. Je connais pas trop les romans Star Trek, mais je me demande s'il y en a pas quelques-uns, justement, qui ont...
La plupart des romans vont tirer des liens, des épisodes comme ça, justement, parce que ça donne des bons points de départ. C'est pas mal le pain et le beurre des auteurs de romans de Star Trek, c'est de nettoyer les dégâts causés par les épisodes qui sont laissés ouverts, comme ça.
Et du coup, sur la décision de Kirk... Est-ce que vous la trouvez logique ou pas de laisser Khan sur une planète comme ça?
Logique. Après, je ne connais pas assez le système civilisatoire de l'époque pour te dire si c'est logique ou pas. Mais je pense que la peine de mort, ça doit plus y être, non?
Si, il y a un épisode où il parle de peine de mort.
Oui, c'est seulement si on va sur Talos 4. C'est seulement si tu vas... voir la planète des Talosiens.
C'est... D'accord. Et ils n'en parlent pas dans le premier véritable épisode pilote à propos de Spock? Ils ne parlent pas de peine de mort?
Je ne sais pas ce que je me rappelle.
Non, pas pour Spock, mais par contre, ils parlent effectivement, les Talosiens, c'est justement dans cet épisode-là.
C'est pas dans cet épisode-là, c'est plus dans la ménagerie qui ont repris l'épisode pilote puis qui en ont fait faire des flashbacks pour... C'est là-dedans, c'est peut-être ça que tu confuses un peu, mais c'est dans l'épisode de ménagerie qui parle de la peine de mort.
OK.
Ou ce qui reprenne les scènes de l'épisode pilote qui n'a jamais été utilisé pour faire en sorte que l'épisode coûte pas cher parce qu'il était dans le trou financièrement.
Après, dans Star Trek, tu as quand même toujours, hors la peine de mort, cette idée quand même de si un ennemi est trop dangereux, le tuer, non? Parce que dans l'épisode de la saison 1, le premier épisode qu'on avait vu, leur ami qui a cette intelligence décuplée et tout ça, au bout d'un moment, Spock...
Ouais, mais il se défend, il n'est pas sans défense. Hein.
Ouais, mais tu vois, Kirk, même, il y pense, tu vois.
Kirk, il y pense, mais il n'y va pas pour le tuer. Il va pour l'arrêter, parce que c'est plus dans cet esprit-là. Et Kirk, l'aurait tué, on va dire, pendant le combat, j'aurais compris, mais si la peine de mort n'est pas dans la Fédération, dans les règles de la Fédération, du coup, une fois qu'il est inoffensif, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, du coup, il n'y a plus de raison de lui infliger la mort, quoi. Il faudrait qu'il soit en légitime défense.
Après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'est pas fait prisonnier et ils le font débarquer sur une planète où ils le mettent en prison par pied de tuite, quelque chose comme ça.
Parce que...
Je pense que le mettre en prison, ce serait mieux.
Ben, disons que là, ils lui font laisser une planète... Ouais, mais là, ils le font aller sur une planète avec tout son équipage, sachant que forcément, même s'ils restent entre eux, tu auras cette idée de dictature quand même. Et pour les gens qui, ces personnes qui vivent ensemble, je sais pas, c'est, tu laisses quand même, même si tu penses juste à MacGyver, enfin, elle, je sais pas si elle aura la belle vie, quoi.
Oui, après, mais elle est d'accord pour
après.
Ouais, mais c'est parce qu'elle s'est fait tourner le cerveau, quoi.
Vraiment à ce moment-là, parce qu'elle s'était retournée contre lui, donc.
Non, je pense qu'elle est vraiment en accord avec le fonctionnement de Cannes, en fait.
Ouais.
Et puis d'un autre côté, elle a le choix entre ça et la cour martiale, donc elle se dit autant essayer.
Je sais pas, ça me faisait penser au syndrome de Stockholm, un peu, tu vois. Le personnage de MacGyver.
Après, je trouve que du coup, c'est la solution la plus, plus enviable, entre guillemets, de le mettre sur une planète. De base, il n'y a pas d'humanoïde. Et ils vont galérer pour survivre et tout ça. De toute façon, ils sont faits pour. Donc, c'est vraiment la meilleure idée parce que les mettre en prison avec des gardes qui auraient pu être sous l'influence de Cannes, c'est risquer d'avoir une émeute dans la prison, quoi. Ouais. Prendre un risque quand même assez énorme. Et en plus de ça, ils gagnent plus ou moins le respect de Cannes.
Après, en tout cas, on peut pas enlever à cet épisode qu'il prend une décision. Et ça, c'est super intéressant. Et même au niveau des débats que ça entraîne, ben, on peut voir ce qu'on est en train de faire là. Ou même au niveau des spectateurs. Enfin, peut-être ils étaient moindres à l'époque, mais c'est quand même un parti pris, pas évident. Et c'est pour ça que la première saison, enfin, en tout cas l'épisode pilote m'avait beaucoup plu. C'est dans ces questions qu'elle pose. C'est toujours cette idée de lancer des débats, poser des questions de fond. Elle est bien cette première saison. Là.
Ouais, moi, je peux être que d'accord. Pour moi, c'est une des forces de Star Trek et de manière générale même, c'est une des caractéristiques pour moi importantes de Star Trek, c'est cette capacité à créer du débat. Et à faire se poser des questions sur des sujets et en prenant justement des possibilités un peu choquantes choquantes en tout cas qui prêtent à débat exprès quoi pour pousser à la réflexion.
Toi Rémi, t'en as pensé quoi?
J'ai trouvé ça extrêmement étrange comme disait Renaud. C'est Renaud que tu disais, ça aurait été bien de l'envoyer en prison, mais d'un côté, Charles disait, oui, ça aurait été bizarre parce qu'il serait capable. Je sais pas sur quel pied danser là-dessus. Mais c'est vrai que oui, c'est une décision totalement controversable. Et d'ailleurs, je me dis que quelque part, dans un épisode caché ou peut-être dans un roman, Starfleet a dû bien tirer les oreilles de Kirk en lui disant « Mais qu'est-ce que t'as foutu ?»
Ouais, mais en même temps, je sais pas.
Est-ce que Kirk a vraiment le droit de dire à son crewman MacGyver « Ok, t'es pas viré, tu débarques avec lui ». Est-ce que c'est légal ça?
Bah, du coup, ce serait un peu de la désertion.
Bah, après, il la force pas, hein, du coup, c'est sa décision.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Librement, donc. Après, elle aurait pu affronter la cour martiale. Je sais pas ce qu'elle. On sait pas trop ce qu'elle risque comme condamnation, mais bon.
La peine de mort.
Non, je pense pas.
Certainement pas très bonne, hein, de toute façon, vu qu'elle s'est retournée contre tout l'équipage et son capitaine.
Je dis la peine de mort en rigolant, mais normalement, dans un système militaire, enfin bon, là on est au 22e siècle, donc c'est différent. Mais,
23e.
À chaque fois, t'as vu, à la dernière émission, je dis 24e, tu me dis 23e, et aujourd'hui, 22e, tu me dis 23e. Bref, dans un système militaire classique, donc peut-être pas dans l'avenir, mais classique, la peine de mort est toujours en cours pour trahison, qu'on soit historien ou pas. Bref, Charles, tu nous parles de ta phrase finale.
Ma phrase finale. Alors, juste une petite question pour remettre en contexte. Par rapport à Enterprise, la fameuse guerre des gènes, c'est quand?
C'est avant.
Enterprise, c'est avant?
Non, les guerres eugéniques, ça se passe avant Enterprise, bien avant.
D'accord.
Tu te rappelles pas, en 1990, si on a eu les guerres eugéniques, là, ça fait beaucoup de nouvelles.
Ah oui, d'ailleurs, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié. C'est intéressant parce qu'en fait, du coup, à partir des années 90, Star Trek a basculé de l'anticipation vers l'Uchronie futuriste.
C'est ça.
Le futur du passé, du présent.
Les dates, ça donne quoi? Là, on est en 1990, les fameuses guerres. Et Enterprise, ça se passe quand?
En 2250.
2250? Et la première génération?
C'est 2300. Excuse-moi.
2364,
c'est vrai, excuse-moi. Enterprise, c'est 2150. Et la série originale, c'est 2260. Et Next Generation, c'est... 2360.
Okay, donc en fait, Enterprise, on sent pas vraiment ça. En tout cas, dans les épisodes que j'ai vus jusqu'à maintenant, on le sent pas vraiment. Ça revient non. ou pas?
C'est genre de truc que les producteurs et les écrivains ont comme oublié.
Ben, c'est pas plus mal parce que...
Ah bah non, dans Enterprise, attends, les guerres eugéniques, on en a les conséquences
oui,
directes.
Oui, mais dans la quatrième saison, quand il y a un producteur qui a décidé de s'en rappeler aussi, il y a ça aussi à...
Ah, je trouve que t'exagères. Parce que les guerres eugéniques, elles sont vachement, enfin, elles sont quand même anciennes à l'époque d'Enterprise. Donc, c'est pas si choquant que ça mette longtemps à revenir, quoi.
Ouais.
Après, bon, la continuité dans Star Trek, on pourrait en reparler 10 000 ans, parce que la fameuse, attention, spoil alert pour les cadets, bouchez-vous les oreilles, mais la destruction d'une très grande ville de la Terre durant la guerre des Xindi, on n'en fait jamais cas ni mention dans les séries suivantes.
Mais en même temps, est-ce qu'il y avait des raisons d'en faire mention dans... Est-ce qu'il y aurait eu des raisons d'en faire mention dans les séries suivantes?
Si, je pense que si les scénaristes de l'époque avaient su que dans l'avenir on en parlerait, ils auraient fait quand même au moins un épisode centré là-dessus, non?
Bah ouais, mais ça aurait été du fanservice, et du coup ça aurait pas été forcément... tu vois, dans un univers aussi vaste que Star Trek, il y a tellement d'événements qui se sont produits que faire mention de ça, c'est... pas plus important que de faire mention de Surak pour les Vulcains. C'est même moins important finalement en termes d'enjeux géopolitiques global sur la galaxie, quoi.
Ouais.
Donc voilà. Merci pour la précision. Ça permet de replacer un peu dans le contexte. Non, donc pour finir, j'ai adoré la dernière phrase de Spock qui propose mais calmement à Kirk de dire bah écoute, on revient dans 100 ans.
Ben, d'où le titre de l'épisode en anglais, Spacey, donc que deviendra ces graines que nous avons plantées.
J'ai beaucoup aimé, mais en plus, toi qui n'as pas l'air de réfléchir, et Kirk qui le regarde en mode « Non mais je serais déjà mort et enterré. »
Ah, tu l'as regardé en français ou en sous-titré? Parce que sur Netflix, au niveau des sous-titres, j'ai l'impression qu'il dit « Ce serait intéressant de revenir dans 100 ans, voir ce qu'ils sont devenus. » Ça donnait plus l'impression qu'il parlait d'un vaisseau ou qu'un vaisseau ou un équipage aille voir plus que lui directement. Enfin, j'ai plus eu cette impression, tu vois.
Alors, c'est la même phrase hein, qui dit, c'est quasiment la même phrase, mais avec l'intonation, t'as plus l'impression qu'il parle du vaisseau, du USS Enterprise.
J'ai pas fait attention, tu vois. Faudrait que je regarderai tout à l'heure.
Non,
c'est vrai que moi, je l'avais plus vu comme Renault. Mais Charles, je trouve que c'est quand même intéressant parce que effectivement, vu la longévité vulcaine, Spock peut parfaitement revenir 100 ans plus tard pour voir ce qui s'est passé sur la planète, quoi. Et peut-être qu'il pense pas que Kirk n'aura pas la longévité.
Moi, je l'ai vu un petit peu comme la revanche de Spock aussi, qui a pas arrêté de se faire titiller par Kirk tout le long du début de l'épisode, où il se foutait un peu de sa tronche et tout, et puis Spock à la fin qui fait ouais. Bah écoute, on ira voir ce que ça donne dans 100 ans, du coup. Alors, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, le truc.
Je l'avais pas du tout perçu comme ça non plus, mais j'aime bien l'idée.
C'est pas rigolo.
C'est voilà.
Mais au final, ça ne se passera pas 100 ans plus tard, mais peut-être 20, 30 ans, je sais pas. Mm-hmm. Et on en parlera lors de la prochaine émission. Oh, merci pour cet enchaînement gratuit que tu m'as fourni. Merci beaucoup, Absol.
Je sais.
Allez, petite dernière question, les cadets. Qu'est-ce que vous attendez pour ce prochain film, La colère de Khan, Wrath of Khan?
Charles. Un vrai Khan, j'ai déjà répondu, un vrai Khan. Un Khan qui envoie, un Khan qui tabasse, de la baston, voilà.
Dont le premier prénom sera Jerry. Jerry Khan, ou alors You Khan.
Oui.
Bref, Renaud, qu'en penses-tu? Que veux-tu voir dans ce prochain film?
Et moi, la barbe à Khan.
Le festival du jeu de mots aujourd'hui.
Attends, je me remets de ma blague.
Barbe turique.
Turicane.
Oh là là. Allez, balancez-les toutes là maintenant, tant qu'on y est.
Cannes, on y est. Pardon.
Oh.
Le cantonnier.
Non, ce que je peux dire, c'est yes we can. Bon, je crois que j'ai marqué la fin des blagues, en fait. Mais non, ce que j'attends de ce film Star Trek, bon, déjà, c'est commencer à voir le premier vieux film Star Trek, ceux d'une longue série. Parce que moi, j'ai juste vu ceux de J.J. Abrams. Donc, j'en attends pas mal. Sachant, Rémi, tu le sais, j'aime beaucoup Durandal. C'est vrai qu'il a fait une rétrospective dessus. J'avais regardé d'une oreille assez distraite toutes les rétrospectives qu'il avait fait sur Star Trek, vu que j'en avais vu aucun. Et j'attendais de les voir pour après regarder ses rétrospectives. Donc, ça va être un bon projet. Moi, ça me tarde. J'attends rien de particulier. Je ne veux pas en attendre trop. Et j'espère que je vais bien apprécier.
D'ailleurs, c'est quand est-ce que tu l'invites, Durandal, sur le podcast?
Alors, trois choses. La première, je pense très sérieusement à l'inviter sur le podcast. Je sais qu'un membre de l'équipage actuel ne l'aime pas trop. On pourra en parler hors ligne. Deuxième chose, je ne sais pas à quel point c'est du leakage que je vais balancer, mais j'envoie régulièrement des messages à Durandal. Et je lui ai dit, est-ce que tu prévois un petit remake de tes épisodes sur Star Trek? Et il m'a répondu, un petit bonhomme qui fait un clin d'œil. Donc, je ne sais pas si ça veut dire une petite annonce. J'ai très hâte. Mais,
tu lui mets la pression, là.
Ouais, non, mais je ne pense pas qu'il nous écoute. Enfin, je lui ai parlé de notre émission. Il m'a dit, ouais, non, 2 heures pour la première, ça fait un petit peu trop long. J'ai d'autres choses à foutre que vous écoutez, bande de connards. Et du coup, je sais pas, je le relancerai à l'occasion, je pense. Et la troisième chose, j'ai complètement zappé ce que je voulais dire sur Durandal. Je pense, oui, ces épisodes retour là sur c'est pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur la série Star Trek commence à dater et je pense qu'ils travaillent sérieusement sur un remake en prenant en compte les reboots de la Kevin Timelines. Oui, non, et une autre dernière chose, alors le film La colère de Khan, Wrath of Khan, n'est pas le premier film Star Trek. Le premier film Star Trek sera The Motion Picture. Mais on va en parler, mais un petit peu plus tard, parce qu'il est un petit peu particulier dans la filmographie de Star Trek, et je sais pas si vous êtes vraiment prêt à l'affronter.
Vous n'êtes pas prêt.
Faut beaucoup de café.
Ça reste un de mes films favoris.
Ou un très grand écran. Moi, j'ai eu la chance de le voir dans une rétrospective cinéma au Grand Max à Paris. Et là, c'est fabuleux, quoi. Parce que c'est vraiment, le film a vraiment été fait pour être vu au cinéma, quoi. Je l'aimais bien avant, mais je me suis vraiment rendu compte de l'intérêt du film en le voyant au cinéma.
Bon, je suis d'accord là-dessus. C'est le genre de film. C'est un des derniers grands films, classique, là, on s'entend. Il y a une ouverture musicale, Robert Wise comme réalisateur, la musique est grandiose. C'était vraiment fait pour l'expérience au grand écran. Là. C'est juste avant l'époque des blockbusters américains là, avec Jaws, E.T. et compagnie. Là. Donc, justement, Wrath of Khan est arrivé en l'été 82, qui est un été comme relativement légendaire au niveau du cinéma parce que beaucoup, beaucoup de films légendaires qui sont sortis cette saison-là. Donc, on pourrait peut-être faire une liste des films que Wrath of Khan a dû se battre contre. Ça pourrait être intéressant.
Ouais, pourquoi pas. Alors, c'est une espérance que je pose pour la prochaine émission. J'aimerais quand même avoir Sean de la chaîne Trek on the Tube, qui est une chaîne en anglais. Sean est australien, mais il vit au Canada et il parle couramment français parce que je l'ai déjà entendu donner un petit peu son avis sur ce film et j'aimerais l'avoir pour la prochaine émission.
Il est néo-zélandais.
Ah, pardon, je croyais australien. Ah, du coup, ça fout en l'air ma blague à la première dizaine de minutes de l'émission.
Ouais, donc excuse-toi. Ah,
Je suis vraiment désolé, je présente mes excuses platement envers toutes les communautés néo-zélandaises et australiennes, et à Sean particulièrement. Allez, sur ce fond d'émission pourrie, je suis tellement désolé pour cette fin. Je vous souhaite une très bonne journée ou une soirée, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, à toutes et à tous. Je vous laisse le dernier mot, mes très chers cadets et très chers commandeurs et très chers JP. Il faudrait qu'on trouve un titre, JP.
Ben moi, je suis nul autre qu'amiral, là.
Amiral JP. Allez, on commence par les cadets. Un dernier mot.
L'équipe de Star Trek pour les nuls n'est pas responsable des blagues racistes omises par notre animateur.
Salopard.
J'approuve.
Allez, bonne soirée à tous.
Vas-y, Renaud, vas-y.
Bonne soirée.
Oh. Bravo. Arrête, c'est même.
Bonne soirée, Dragor.
Bonne soirée.
Et bonne soirée, Amiral.
Las Vegas.
C'est pour
tout
quand,
ce que je veux dire pour le mois que c'est le... donc, c'est le partir du 1er août jusqu'au 5, je serai à Star Trek Las Vegas. Donc, la convention. Je vais avoir plein de petites vidéos de live parce que je vais prendre un forfait mobile qui va me permettre d'avoir mes données aux États-Unis. Donc, je vais me gâter et je vais vous gâter par la même occasion.
Juste pour continuer dans l'autopromo, est-ce que tu vas faire un petit retour sur ton expérience à Ticonderoga?
Ticonderoga, j'ai pas encore eu le temps, mais d'ici le temps, parce que ça, c'est d'ici probablement qu'on va avoir le temps de faire un épisode de Pardon Trek, mais je peux vraiment parler. Donc, samedi dernier, on est allé voir nos amis à la jolie ville de Ticonderoga, où il y avait certains auteurs qui étaient présents, donc des auteurs de romans Star Trek, dont le légendaire Peter David. J'ai rencontré aussi Keith DeCandito, aussi mon bon ami Dave Gallanter, ainsi que deux autres que je ne me rappelle plus du nom. J'ai fait deux, trois interviews. C'était vraiment sympathique. C'est une petite journée très tranquille là-bas. Là. C'était pas un gros événement. Donc, c'était évidemment autour des décors de The Original Series 7 Tour. Et j'ai fini en mangeant une crème glacée avec eux samedi soir. Donc, c'était très sympathique.
Super.
C'est avec mon charisme incroyable.
Non, mais si. Moi, j'aime beaucoup tes petites vidéos. En plus, elles sont courtes et c'est très agréable à regarder. Mais il faut parler, j'allais dire VO, il faut parler anglais.
Oui, ben, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire au Québec, parler anglais. Le fait qu'on est entouré d'anglophones dans notre propre pays et au sud, ça force les Québécois à parler anglais avec un accent minimal.
Super. Ben écoute, merci beaucoup pour ton retour.
Ça fait plaisir.
Évidemment, je pense que les auditeurs l'auront compris, ce sont des blagues à prendre que j'ai fait tout le long de cette émission, à prendre au second, troisième, millième degré. Je ne pense absolument rien de tout ça, j'en ai déjà fait part lors des émissions précédentes, mais je me sens forcé de revenir quand même dessus au cas où. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Soyez tous... partez tous... ayez tous une longue vie. Prospère. Et bonne soirée. Bisous.
Ciao.
Rappelons.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Star Trek pour les nuls.